Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé un Trésor. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui avec nous une Montpelliéraine qui a réussi à passer le Vidourle, très active dans la capitale de l'Hérault et très connue aussi de cette capitale. Il s'agit de Madame Martine Maragou, qui est la présidente de la communauté Emmaüs Montpellier, l'une des plus importantes de France. Les compagnons sont actifs sur la métropole de Montpellier, mais aussi sur le territoire de l'agglomération du Pays de l'Or. Martine Maragou n'est pas exclusivement montpelliéraine, elle est aussi gardoise, car elle est un membre actif de l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue, où elle apporte son savoir et surtout son intérêt incessant pour l'autre. Bonjour à vous, Madame Martine Maragou. Bonjour à vous, Martine, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, Jacques-Jaume. Merci de me recevoir et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, Martine Maragou, aussi professeure de lettres, se caractérise par un ADN familial imbibé de l'envie de servir et d'être à l'écoute des autres. Présidente d'Emmaüs Montpellier, depuis 2018, elle est engagée aux côtés des compagnons et pour les compagnons qui arrivent à la communauté avec des bleus au corps, mais également des bleus à l'âme. C'est ainsi que nous présente le monde nouveau. Mais j'aimerais que vous vous présentiez plus longuement, vu vos multiples activités, comme votre qualité d'animatrice de plusieurs chroniques radio à Radio Avia, où vous êtes membre du conseil d'administration.
Bien sûr. Alors, donc, comme vous l'avez dit, je suis au conseil d'administration de Radio Aviva et j'anime plusieurs émissions, dont une...
J'ai dit Radio Avia, c'est Radio Aviva.
Aviva, oui, oui. Donc, je suis très fière. C'est une émission que j'ai co-animée avec le général Ira Storza, qui est un ancien CEMAT, qui s'appelle « Se souvenir du passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir ».
Ça, et avec un général, un militaire alors, qui fait de l'histoire.
Bien sûr, qui est un ancien CEMAT et qui a été président.
Dites-nous ce que c'est qu'un CEMAT.
C'est donc un chef d'état-major de l'armée française.
Ah, d'accord, donc c'est un haut gradé, connaît bien, donc qui fait de l'histoire contemporaine, moderne.
Bien sûr. Qui donc, était le plus grand.
Ce qui est bien avec les militaires, c'est qu'il a vu l'histoire, donc il sait de quoi il parle.
Et il a été président de la commémoration de la Première Guerre mondiale aux côtés du président Macron.
Ah, très bien. Alors, voilà. C'est à côté du président Macron, c'est quand même une référence.
Hein. Voilà, tout à fait.
Alors, en dehors de, vous êtes chroniqueuse à la radio, vous faites une émission tous les combien ?
Oh bah écoutez, en général, j'y vais dès que je peux, parce que j'ai un emploi du temps qui est quand même un peu chargé.
Une fois tous les deux ans, alors ?
Non, j'essaie d'être plus présente.
Bon, d'accord. Et alors, il faut vous dire qu'à Nîmes, il y a une antenne, comme on disait tout à l'heure. Une antenne pour une radio, c'est quand même c'est intéressant.
Bien sûr,
une
bien
antenne
sûr.
De la radio Aviva à Nîmes, hein, que nos auditeurs peuvent aussi écouter.
Tout à fait.
Hein, qui est une radio, qui est une radio culturelle, mais... au point de départ qui est juive.
Voilà, qui a été créé par un président qui est de confession juive. Ouais. On a essayé de sortir, elle est toujours communautaire sans lettre.
Voilà, oui. Voilà, c'est une radio...
Généraliste.
Généraliste, culturelle, mais bon, avec des membres fondateurs qui sont...
Tout à fait.
Bon, et à part ça, qu'est-ce que vous faites à Montpellier ?
Alors,
je ne vais pas vous demander qui vous connaissez, parce que c'est une émission de trois quarts d'heure que pour vous présenter.
Alors, je suis également rotarienne. Et qui correspond, cet engagement rotarien correspond à mes engagements dont nous allons parler par la suite.
Puisque j'en ai une sous la main, dites-moi à quoi sert le Rotary.
Mais d'abord, notre devise, c'est servir d'abord. Donc, vous avez tout compris. Ça se rallie complètement. C'est un trait d'union avec mon engagement emmaüsien.
Ça fait longtemps que vous êtes rotarienne ?
20 ans.
Bon. Alors, quel Rotary ? Parce que nous, on a plusieurs Rotary.
Oui, bien sûr. Mais je suis au Rotary un peu historique de Montpellier, puisque je suis au Rotary doyen.
Ah, voilà. Ça marque.
Ça marque.
Vous voyez, mes invités quand même sont marqués. Donc le Rotary, vous avez des activités aussi au niveau du Rotary pour le côté social, médical.
Tout à fait.
Bon, très bien.
Je suis engagée auprès de la recherche médicale dès qu'il y a
ça,
une action.
Ça, c'est une très très bonne chose. Alors nous connaissons avec Martine, notamment par notre appartenance à l'Académie de Saint-Gilles de la Camargue. Et je suis toujours frappé par son appétit de connaître et de savoir, son dynamisme, son relationnel, ses réseaux, les réseaux de Martine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, pour son goût de l'autre, et alors, de l'autre quel qu'il soit, Et c'est ça qui est intéressant, parce que intéressé par l'autre, tout le monde l'est, mais quel qu'il soit, c'est différent. Alors pourquoi ce besoin de l'autre, de faire du bien à l'autre, vous habite-t-il, Martine ?
Alors, je crois que j'en ai hérité. Je crois que ce besoin de l'autre est un besoin inné. Mon père était déjà secrétaire de la Croix-Rouge. Mon beau-frère était très engagé auprès des chrétiens d'Orient. Mmh. Et moi-même, donc, j'étais étudiante encore, j'ai appartenu aux conférences Saint-Vincent de Paul. Et en parallèle de ma carrière, j'ai toujours œuvré pour l'autre.
Alors, je vais vous poser une question, mais c'est une question qu'on peut pour moi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous la poser, mais ce n'est pas un piège. Hein.
Non, non.
Vous étiez étudiante, racontez-moi, parce que c'est pour moi. Vous étiez étudiante en lettres.
J'étais étudiante à lettres classiques. Je fais partie des dinosaures qui ont étudié le latin et le grec.
Mais vous savez que c'est plus que des dinosaures, maintenant on les recherche,
c'est
des pépites.
Voilà. Et donc,
vous êtes helléniste alors ?
Voilà, je suis helléniste et j'ai fait mes études, j'ai fait Hippocagne-Cagne à Paris.
Oui.
Voilà, et donc dans ce contexte-là, j'ai eu la chance, je le dis, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Gabriel Marcel, qui était un philosophe existentialiste,
oui.
Grand ennemi de Sartre.
Oui, voilà, mais il y en avait.
J'ai fait partie de son cénacle, et en parallèle, j'œuvrais aux conférences Saint-Vincent de Paul, où j'allais rencontrer une fois par semaine les personnes âgées.
Donc latiniste, donc vous lisez le latin ancien dans le texte, helléniste, vous lisez... Le grec Socrate dans le texte.
Alors dans le texte, je ne sais pas si aujourd'hui encore j'aurais cette capacité.
Mais ça ne s'oublie pas, c'est comme un vélo, ça. Et donc de ce patrimoine intellectuel, vous en avez fait quoi pour votre travail, pour votre vie professionnelle ?
Eh bien, j'ai été professeur de lettres classiques.
C'est ce que je voulais savoir. Vous avez enseigné où ?
Alors j'ai enseigné à Montpellier, principalement dans l'enseignement catholique à Montpellier.
Oui.
Et j'ai terminé avec aucun élève en grec. C'était mon grand désespoir.
Je vous lis pour vous rassurer. Pour assurer les éditeurs, il y a des cours de grec. Il y a l'Université populaire des religions de Nîmes qui vient de se créer, qui est en train d'être réactivée, qui proposera des cours de grec. Et puis il y a le CREC qui donne des cours de grec. Il y a 4 étudiants, mais enfin, ça revient. Et alors, revenons à l'autre. Alors, vous étiez enseignante, donc l'autre, c'est important. Oui. Apporter à l'autre, élever l'autre, dans le bon sens du terme. Parlez-nous de ce besoin d'apporter à l'autre.
Alors, comme je vous disais, c'est chez moi un héritage familial. J'ai toujours vu mes parents et grands-parents être au service de l'autre. Et puis, je pense que c'est aussi non seulement un héritage familial, mais c'est aussi un devoir de transmission. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose de très important pour moi, de transmettre les valeurs que j'ai reçues et les transmettre à l'autre aussi.
Alors, vous répondez déjà à ma question, mais je vais aller un peu plus loin. Transmettre, c'est avoir quelque chose à transmettre. Donc ce sont vos valeurs, votre vision de la vie, mais vous transmettez à tout le monde. Donc ce sont des valeurs universelles que vous transmettez.
Oui, je crois que c'est...
De charité,
de charité.
Tout le monde a compris que vous êtes charitable.
Oui, alors je ne sais pas si j'aime le mot charité. Mais peut-être bienveillante.
Non, mais dans le côté noble du terme.
Dans le côté noble du terme.
C'est-à-dire avec le cœur, pas avec le carnet de chèques.
Ça se dévalorise tellement le mot charité en ce moment.
Non, mais
le charity business.
La charité, c'est regarder l'autre. C'est ça la charité. Des euros. Enfin, ça lui permet de le regarder aussi. Mais...
C'est le regard que l'on pose sur l'autre en disant à l'autre, Tu as autant de valeur que moi, tu existes.
Voilà. Donc c'est ça. Alors vous avez compris déjà la personnalité de Martine, vous avez déjà compris pourquoi je voulais qu'elle soit à ce micro, qu'elle nous fasse partager son expérience. Alors vous êtes présidente d'une structure avec la charité dont on vient de parler, de bienfaisance, qui s'occupe de combien de personnes, alors vous allez tous avoir peur, et qui travaille autour de vous, combien de salariés, de bénévoles, racontez-nous la structure dont vous êtes présidente.
Alors, la première des choses que je vais souligner, c'est que c'est une structure, vous allez voir, qui est très importante, mais qui vit sans aucune subvention, quelle qu'elle soit. Je ne reçois aucun centime, ni de la mairie, ni du département, ni de la région, ni de l'État.
C'est la mairie de Montpellier, donc.
je suis sur Saint-Honnès. Mais même. Donc, c'est vraiment une association qui est complètement atypique. Ce qu'a voulu d'ailleurs notre fondateur, c'est que chez nous, on vit grâce à son travail.
Alors, dites-nous le nom quand même de votre fondateur.
Alors, c'est l'abbé Pierre, j'ose le dire et je le revendique.
Non, mais c'est pour ça que je vous demande de le dire.
Et je revendique cette appartenance, tout à fait. Notre structure accueille 110 personnes, 110 compagnons.
110 compagnons, c'est-à-dire 110 personnes...
Qui viennent de la rue.
Voilà, qui viennent de la rue, qui ont des bleus à l'âme, des bleus au corps, et vous vous occupez d'eux.
Voilà. Oui, avec 8 femmes, 9 enfants.
Ah, il y a 8 femmes et 9 enfants parmi ces 110.
Voilà,
ces 110.
40 bénévoles.
Alors, voilà, à côté, donc, il n'y a pas que ces 110.
Il y a les 40 bénévoles et 12 salariés.
Et 12 salariés. Vous êtes une chef d'entreprise.
Voilà, je suis une chef d'entreprise, une PME.
Oui, une petite PME, enfin une grosse PME.
Une grosse PME, voilà, tout à fait, tout à fait.
Bon, et vous en sortez comment?
Par le travail. Par le travail.
Elle n'arrête pas, je peux vous dire qu'elle n'arrête pas. Aussi bien dans le relationnel que dans l'activité, elle n'arrête pas. Pour la voir au téléphone, heureusement qu'il y a SMS parce qu'on donne des rendez-vous téléphoniques, mais elle n'arrête pas et toujours pour donner. C'est toujours pour donner.
Mais mon rôle, si vous voulez, mon rôle de présidente, c'est d'aller chercher les dons, je peux les appeler comme ça, là où ils sont. C'est que les entreprises nous aident, alors non pas obligatoirement en sortant le carnet de chèques, comme vous l'avez souligné, mais en donnant les invendus, les surplus, etc. Ce qui permet à la communauté, aux compagnons, de retaper ces objets et de les revendre. Parce que sur site, nous avons 10 magasins.
10 magasins. Alors, Martine est comme une maman oiseau, si vous voulez. Mais seulement, elle a... Si je compte bien, 152 et 12, 174 petits oisillons. Et tous les matins, elle va chercher de la nourriture, elle les ramène pour donner la béquille à tout ça. C'est un peu l'image que
j'aime beaucoup l'image, d'ailleurs.
Elle, c'est la maman oiseau, ou le papa aussi, mais la maman, ça fait plus... Et donc, c'est son travail de tous les jours. Et alors, faire le bien pour vous, parce que vous faites le bien, c'est quoi?
Alors, faire le bien, c'est d'abord... C'est servir d'abord, je vais reprendre la formule rotarienne, c'est permettre à l'autre d'être reconnu en tant qu'être humain, parce que chez nous, comme vous le disiez tout à l'heure, ils arrivent avec les bleus à l'âme et les bleus au corps, il y a une dévalorisation de la personne, et c'est à nous, encadrants de cette communauté, de leur redonner confiance en la vie, de leur redonner la dignité perdue. Et ça, c'est très important.
Alors, je m'arrête sur la dignité, parce que c'est une des premières thérapeutiques, si vous voulez.
Oui,
c'est
bien sûr.
De dire bonjour, bonjour madame ou bonjour monsieur, et puis un prénom. C'est peut-être plus qu'un nom, un prénom.
Un prénom. C'est très important, le prénom.
Alors, on enregistre aujourd'hui, dans une journée un peu particulière pour les chrétiens, où Marie-Madeleine est appelée par son prénom.
Bien sûr.
Elle est appelée par son prénom Marie, et donc on l'appelle, l'invisible l'appelle par son prénom. Donc je voulais rendre hommage à la dignité que vous rendez aux gens, et c'est quand même fondamental, très important pour ceux qui vivent. Je vous propose une trêve musicale. J'ai pensé que ce vouloir de faire le bien de Martine se marie bien avec la mission de François d'Assise, où beaucoup se reconnaissent, alors je vous propose d'écouter le cantique de François d'Assise.
Pour notre seul amour.
écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Madame Martine Marago, une servante de la bienfaisance. En dehors de la bienfaisance, vous protégez, on en a parlé en début d'émission, ont des besoins. Comment faites-vous pour apporter une réponse à ces besoins? D'abord, quels sont-ils et comment vous faites?
Alors, vous savez, les besoins, d'abord, il y a les besoins primaires. Trouver un logement, être nourri, être habillé, retrouver cette dignité perdue au fur et à mesure de la rue, parce que la rue est quelque chose qui marque. Vous savez que 2 jours à la rue, 2 nuits, suffisent à détruire un être. C'est quelque chose qui va très très vite et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais je crois que le besoin plus vital, ça serait peut-être d'essayer d'arrêter cette souffrance qu'il y a en eux. Parce que quand ils arrivent, il y a une réelle souffrance, j'allais dire qui est plus morale, psychologique que physique. Bien sûr qu'il y a les bleus au corps. Mais les bleus au corps, nous avons les médecins qui aident à cette réparation. Les bleus à l'âme, c'est quelque chose qui va perdurer des années.
Alors, ma prochaine question est sur la santé, bien évidemment, parce que je ne peux pas m'en passer. Mais là, vous énoncez quelque chose que je n'avais pas prévu, qui m'intéresse, c'est la souffrance de la rue. Est-ce que vous, vu votre expérience, c'est une expérience dans un monde de douleur et de souffrance, mais est-ce que vous pouvez individualiser une souffrance due à la rue, à l'ambiance de la rue, à la solitude de la rue? Est-ce que quelqu'un a écrit là-dessus? Est-ce qu'il y a une étude, des témoignages de la souffrance uniquement de la rue? On comprend la faim, par exemple, on comprend la soif, tout le monde l'a vécu.
Il y a la peur.
Mais la rue, voilà, par exemple, la souffrance de la rue, personne. Alors, est-ce qu'il y a. C'est peut-être une déformation, mais est-ce qu'il y a un travail dessus?
Non.
Pourquoi l'intérêt d'un travail? Pas parce que je veux qu'on fasse un travail, parce que quand on fait un travail sur une souffrance, c'est pour y répondre. Hein, c'est-à-dire que ça enclenche une démarche thérapeutique de cette souffrance.
Non.
Est-ce que ça existe, ça?
Absolument pas.
Donc, il faudra y penser.
Il faudra peut-être y penser. C'est peut-être un travail futur qu'il faut que je le fasse.
Je pense que ça serait intéressant sur une modélisation de témoignages et de croisement de ce qu'on ressent avec des grilles et d'individualiser une souffrance, une psychopathologie, ou une pathologie spécifique à l'état d'être dans la rue.
Vous voyez, je pense que la présence du chien, du compagnon, souvent on s'interroge, on a peur, nous tous parfois on compte, c'est pour une protection.
Bien sûr.
C'est la seule protection qu'ils aient à la rue. Voilà.
Alors, en revenant à leur santé, comment faites-vous? Est-ce que l'assurance maladie que tout le monde connaît, les mutuelles, vous aident pour les besoins de santé de vos protégés ou alors vous êtes vous-même à la rue?
Eh bien, je suis un peu à la rue. Voilà. Alors, quand ils arrivent, quand nous avons des Français européens qui ont la CMU, c'est beaucoup plus facile pour nous. Parfois, certains migrants, puisque nous avons...
Vous recevez des migrants, c'est-à-dire des gens qui viennent d'où? Parce que les migrants, pour nous, c'est des subsahariens.
Voilà, alors...
Ou des maghrébins, mais...
Oui, tout à fait.
C'est la majorité.
C'est la majorité. Afrique subsaharienne, Maghreb et Pays de l'Est.
Ah, voilà.
Pays de l'Est, en plus.
Peut-être moins, c'est bon.
Géorgie, Albanie, Ukraine, enfin, si on peut... Voilà. Quand ils ont la CMU, c'est merveilleux pour nous, parce que nous avons des remboursements et on peut aller dans un parcours de soins. Quand ils ont la ME, c'est déjà mieux. Mais parfois, certains qui sont en début de parcours quand ils arrivent en France, ils n'ont pas encore la ME. Et c'est nous, donc, qui prenons
ils
en charge.
Ils n'ont rien du tout, quoi.
Et qui payons tous les soins.
Oui, parce qu'on
concernant la personne.
La CMU, c'est la couverture mutuelle universelle que tout le monde connaît. L'AME, c'est l'aide de l'État aux étrangers. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que si quelqu'un arrive avec la tuberculose, on peut dire, oui, mais il n'est pas en France, donc on ne le soigne pas. Oui, mais c'est un point de départ, diffusion de la tuberculose. Donc, en soignant quelqu'un qui arrive, on protège les gens. C'est un problème de santé, de médecine, de santé générale. Hein, après, il y a un problème politique, mais je suis médecin, moi. Hein, bon. Mais... Donc, eux, il y a des parcours administratifs, d'effraiement, etc. Mais ceux qui n'ont rien, il faut bien les soigner, quand même.
Nous les soignons.
Et alors, comment vous faites?
Eh bien, nous puisons dans nos réserves financières.
C'est-à-dire qu'à côté de la biscotte, vous avez
Complètement.
Une enveloppe soin.
Ah, une enveloppe soin. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a des addictions, Alors, elles sont plus à la drogue qu'à l'alcool. Quand notre fondateur a créé le mouvement, les addictions, plutôt, elles étaient beaucoup plus à l'alcool qu'à la drogue. Nous payons, nous-mêmes, un parcours qui permette à nos compagnons d'essayer de s'en sortir, donc des cures de désintoxication.
Et alors, vous avez des soignants aussi qui interviennent?
Alors, très peu.
Peu.
Peu. Et nous avons surtout, et je lui rends hommage, un médecin à la retraite.
Oui, on peut dire son nom quand même.
Oui, c'est le docteur Redon, Bernard Redon.
Redon qui était montpelliérain, qui était installé comme...
qui était généraliste dans un petit village à côté de Montpellier, une petite ville, au Crès, et qui vient dès que nous l'appelons. Et là, les soins sont absolument gratuits.
Et là, il pratique.
Il pratique.
Mais il a un statut quand même pour pratiquer.
Oui, tout à fait.
C'est un médecin à la retraite qui peut, mais...
Tout à fait, qui peut, voilà.
En tant que bénévole, il déclare, il fait...
Tout à fait.
Et vous avez des infirmières, des...
Alors, des infirmières... Ben oui, nous payons, comme vous et moi, quand nous allons...
Vous n'avez pas de bénévole à ce niveau.
Nous n'avons pas de bénévole.
Donc si, sur Montpellier, il y a des infirmières qui s'ennuient un peu, des kinésithérapeutes qui s'ennuient un peu, des ergothérapeutes qui s'ennuient un peu, des psychologues qui s'ennuient un peu, des gens qui ont une qualification de soins ou qui veulent faire du bien... qui s'ennuient un peu, arrêtez de vous ennuyer.
Venez nous rejoindre.
Rejoignez Martine. Voilà, comme ça, vous ferez du bien.
Voilà. Les psychologues, ça sera plus difficile parce qu'un compagnon n'est pas prêt, je crois.
Non, mais il faudra la former, la psychologue.
Oui, parce qu'il n'est pas prêt à rencontrer une psychologue. Hein. Il me dit, je ne suis pas fou.
Voilà. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais les psychologues ne s'occupent pas que des fous.
Voilà.
Mais ils s'occupent aussi de... Mais c'est intéressant, mais ça peut être intéressant parce que ça peut être... Moi, je pense, en tant qu'enseignant universitaire, ça serait très intéressant que des élèves infirmiers, que des étudiants en médecine, que des étudiants en ergothérapie, etc., fassent un stage sur le terrain. Et là, c'est du terrain, c'est-à-dire de voir, excusez-moi, je vois un terme qui va être violent, mais pour être violent avec les étudiants pour qu'ils réagissent, un indigent.
Tout à fait.
Et voilà, un indigent.
Tout à fait.
Et j'ai fait l'histoire des hôpitaux, il y avait les indigents. Hein. Alors, vous allez voir Martine Margot à Montpellier. Hein, ça lui fera du bien, vous aussi. Alors, bien que vous soyez montpelliéraine, comment peut-on vous aider, à part vous envoyer des professionnels de santé qui s'ennuient?
Alors, écoutez, je pense que la misère n'a pas de frontières. Nîmes-Montpellier, ce n'est pas très loin.
Et alors, on va demander quand même, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Est-ce qu'il y a une antenne
Alors, ce ne sont pas des antennes.
Ce ne sont pas des antennes, excusez-moi. Mais est-ce qu'il y a un groupe Emmaüs sur Nîmes?
Non, Nîmes n'a pas de groupe Emmaüs. Je crois qu'ils ont une boutique.
Oui.
Je crois que c'est Arles, où il y a une communauté la plus proche de Nîmes.
Oui.
Voilà. Mais nous, c'est Montpellier-Saint-Aignan, c'est à peu près à égalité distance.
Mais la structure avec vos 110 pensionnaires, vos petits oiseaux, il n'y a pas l'équivalent sur Nîmes.
Il y a une boutique, mais il n'y a pas d'équivalent sur Nîmes.
Il n'y a pas l'équivalent. Voilà, qu'on ne fasse pas de l'ombre à des choses qui existent et puis que je ne savais pas. Enfin, je m'en doutais, je le savais, mais je voulais que vous le précisiez. Comme ça, moi, je pourrais toujours dire. Alors, comment on peut vous faire du bien, vous qui faites du bien?
Alors, écoutez, j'allais dire, venez nous aider en achetant des choses sur la communauté. Venez visiter la communauté, c'est une grosse communauté.
Vous savez, pour un Nîmois d'aller à Montpellier, c'est dur. Mais enfin, on peut y aller. Hein.
Bah oui, écoutez, une Montpellierienne est bienvenue jusqu'à Nîmes aujourd'hui.
Vous êtes venue de Montpellier,
Voilà, et puis on accepte également les dons numéraires contre des CERFA aussi. On peut établir des CERFA, ce qui permet de défiscaliser. Et les chefs d'entreprise, souvent, sont en recherche de CERFA et ça peut être... C'est un bon deal. Oui. Tout le monde est gagnant-gagnant.
Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a une maison remplie d'objets comme les vieux comme moi entassent pendant toute leur vie, dont les enfants n'ont plus rien à faire, est-ce que vous vous déplacez sur Nîmes pour vider une maison, ce qui vous permet de récupérer du matériel pour alimenter vos magasins? Est-ce que vous faites ça?
Voilà.
Votre rayon d'action se limite à Montpellier ou ça peut s'élargir
Alors, ça peut s'élargir dans certains cas, puisque nous ne sommes pas, si vous voulez, nous avons quitté la Fédération Emmaüs France. Donc voilà. Et nous nous déplaçons sur Montpellier, les alentours, gratuitement. et nous venons vider et récupérer les objets qui sont dans la maison.
Plutôt que de mettre dans une benne et que ça soit écrasé, autant que ça fasse. Parce que c'est important, l'objet. Parce que là, je parle un peu pour moi et mes vieilleries. C'est vrai que quand on a aimé un objet pendant toute une vie, et bon, les enfants s'en foutent un peu, de le voir dans une benne écrasée, c'est d'un souvenir. Hein, bon.
Mais bien sûr.
Donc c'est important que ça revive.
Il faut savoir.
Et surtout si ça peut faire du bien.
Bien sûr. Je vous disais, un objet, il faut lui donner une seconde vie.
Très
et
bien.
Aujourd'hui, je crois que les... Alors, il y a les ressourceries, mais elles, les ressourceries sont à des buts commerciaux.
Oui, commerciaux. Non, mais
alors
là, on n'est pas
dans
un but commercial, dans un but de faire du bien.
Voilà. Hein,
donc, faire du bien à quelqu'un qui fait du bien comme Martine, c'est quand même bien.
Bah écoutez, un très grand merci.
Mais non, mais c'est... Donc, et faire du bien à des gens plutôt que de jeter leurs souvenirs, qui est une deuxième vie, c'est bien. Donc, vous voyez, Martine est une maman oiseau qui alimente ses petits oisillons tous les matins. Et puis, elle donne une deuxième vie. Elle est génératrice. Elle est pleine d'énergie. Et on la remercie pour ça.
Merci.
Et pour tout ce qu'elle donne. Eh bien, très chère Martine, un immense et un insondable merci pour votre présence, votre témoignage et surtout... Je le pense pour avoir ce charisme que vous donnez, nous aussi, l'envie de faire du bien pour faire du bien et pour que l'autre soit tout simplement bien. Merci infiniment à vous pour tout ce que vous apportez, que vous nous apportez et pour tout ce que vous faites. Merci. J'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, les livres que nous conseille Martine Maragout. Vous avez pensé à un livre ou deux ?
Alors, ce n'est pas la santé, mais oui. Je crois que ça fait la partie de la santé mentale. Alors, le premier livre que... Bon, je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas vous étonner en ce jour du Vendredi Saint pour moi, c'est la Bible.
Bon.
Je pense que beaucoup de gens devraient lire la Bible, parce qu'au-delà du côté spirituel de la Bible, il y a tout un enseignement de la vie de tous les jours.
C'est quand même, les auteurs sont bons, parce que c'est toujours
voilà,
la première vente.
Tout à fait.
Alors moi, je vous conseille De vous à moi, ces aïeux qui nous montrent la voie, où Martine retrace son récit familial qui a fait d'elle une femme d'exceptionnelle et brillante. Hein, donc c'est un livre à elle qu'il faut lire, hein, vous chercher. Hein, donc là, j'ai été un peu vite, vous prenez le podcast et vous notez. Merci à vous Martine d'être venue avec nous et de nous avoir fait du bien.
Merci Jacques.
Alors je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce régulière sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.